Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce journal d'ONU Info. Au menu, un nouveau rapport alarmant de l'Organisation Météorologique Mondiale avertit des répercussions croissantes du changement climatique. Les enquêteurs de l'ONU estiment que le risque d'atrocité reste important au Burundi. En 2 ans, plus de 100 000 personnes ont fui le Nicaragua pour échapper aux persécutions et violations des droits de l'homme. Et un dossier, un responsable humanitaire de l'ONU en Haïti nous explique pourquoi les Nations Unies ont besoin de 253 millions de dollars pour aider les Haïtiens. Un nouveau rapport de l'Organisation Météorologique Mondiale met en évidence les répercussions croissantes du changement climatique sur l'atmosphère, les terres et les océans. Pour Omar Badou, chargé de la coordination du rapport de l'OMM sur le climat mondial, si la hausse des gaz à effet de serre et son impact continuent, il sera difficile d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris.
La température donc a été confirmée comme étant la deuxième année la plus chaude. L'année 2016 demeure l'année la plus chaude et ceci est dû au facteur d'un réchauffement exceptionnel dû au phénomène El Niño. Autre chose, les concentrations des gaz à effet de serre dans l'atmosphère vont continuer à progresser. En ce qui concerne maintenant les océans, on sait très bien que les océans emmagasinent l'excès de chaleur causé par les gaz à effet de serre à 90%. Et cette année, on a noté un record des niveaux de mer et en plus une accélération de cette dilatation du niveau de mer. Sur les glaces, on continue aussi à noter la banquise qui se dégringole avec l'année 2019 en deuxième plan par rapport à l'historique. La banquise il a un rôle très important dans la régulation du système climatique mondial. Sans la glace de la banquise, les rayons solaires vont pénétrer directement dans les océans, donc ils vont encore réchauffer davantage et par là la boule de neige qui va s'en suivre. Nous avons aussi noté les pertes des glaces sur ces continents et sur ces montagnes et continuent avec une situation de plus en plus sensible par rapport à ces effets. Donc voilà les grands indicateurs du système climatique mondial. S'il n'y a pas vraiment des efforts révolutionnaires par rapport à la réduction des émissions des gaz à effet de serre et la transformation de l'économie mondiale vers une économie verte, nous sommes un peu inquiets si on arriverait un jour à atteindre ces objectifs de l'accord de Paris.
À 2 mois des élections présidentielles, parlementaires et municipales prévues au Burundi, la commission d'enquête des Nations Unies sur ce pays d'Afrique de l'Est a souligné que le risque d'atrocité reste important. La commission a appelé la communauté internationale à unir ses forces pour encourager le gouvernement burundais à rouvrir l'espace démocratique, civil et politique dans le pays. Pascal Sim nous en dit plus.
Devant le Conseil des droits de l'homme, la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi a alerté sur la persistance de risques d'atrocité criminelle. Des membres de Zimbonerakure, la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, ont continué de perpétrer des homicides, des disparitions, des arrestations et des détentions arbitraires, des actes de torture et de mauvais traitement, ainsi que des viols contre des membres de l'opposition politique, réels ou présumés, ont dénoncé les membres de la commission. Certains autres facteurs de risque sont plus prononcés, avec une censure accrue des médias par le gouvernement burundais, qui a imposé sans consultation préalable un code de conduite pour les médias et les journalistes pendant la période électorale de 2020. En janvier dernier, 4 journalistes d'Iwaku, l'un des derniers médias indépendants du Burundi, ont été condamnés à une peine de prison. L'augmentation du discours de haine aux dimensions politiques et ou ethniques, qui circule sans restriction sur les médias sociaux, et le silence des autorités burundaises à cet égard, crée un environnement propice à la violence et aux violations des droits de l'homme, qui est un autre facteur de risque, ont également alerté les membres de la commission.
Près de 2 ans après que le pays a été plongé dans une grave crise sociopolitique, plus de 100 000 personnes ont fui le Nicaragua pour échapper aux persécutions et violations des droits de l'homme signalées dans le pays. Ces flux risquent de continuer selon le commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Leur première destination est souvent le Costa Rica. Les précisions de Shabia Mantou, porte-parole du HR.
Depuis octobre dernier, le Costa Rica a rationalisé les procédures de détermination du statut de réfugié pour les profils communs des personnes connues pour être persécutées au Nicaragua, ce qui réduit le temps nécessaire pour qu'elles soient reconnues comme réfugiées en leur accordant ainsi une protection. Par le biais d'un accord avec le HCR, le Costa Rica a également permis à 6 000 demandeurs d'asile, parmi les plus vulnérables, d'avoir accès au système de santé publique. Il s'agit notamment de personnes souffrant de maladies chroniques ou de handicap. handicap, de personnes nécessitant une intervention chirurgicale, de survivants de la torture et de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Le HCR coordonne avec les autorités gouvernementales et d'autres agences des Nations Unies pour surveiller les mouvements transfrontaliers en Amérique centrale et répondre aux besoins de protection et humanitaire des réfugiés nicaraguayens. Cela comprend également la fourniture de soins de santé, de soutien psychologique, d'abri et d'aide alimentaire.
La situation humanitaire en Haïti inquiète les Nations Unies. L'ONU a besoin de 253 millions de dollars pour venir en aide à 2,1 millions d'Haïtiens vulnérables, menacés par l'insécurité alimentaire, les crises chroniques, ainsi que les événements climatiques et les tremblements de terre. Les explications de Bruno Lemarquis, coordinateur humanitaire des Nations Unies en Haïti, au micro de Jérôme Longuet.
L'appel vise les 2,1 millions de personnes les plus vulnérables, donc 2,1 sur 4,6. C'est un appel, pour ce qui concerne Haïti, assez important, c'est 253 millions de dollars. L'essentiel, le premier secteur visé, c'est donc tout ce qui est sécurité alimentaire. Appui immédiat pendant la période de soudure qui va de mars à juillet, donc c'est très important que ces ressources arrivent très 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 vite. Le deuxième secteur, c'est le secteur de la santé, en particulier vu l'impact qu'il y a eu sur le secteur de la santé durant cette période de pays lock. Et ensuite les secteurs éducation, abri, il y a encore des gens qui ont besoin de logements provisoires, notamment après un tremblement de terre qu'il y a eu dans le nord d'Haïti en 2018. Il y a des gros problèmes de protection, de violences sexuelles, de violences envers les femmes, envers les enfants. Il y a aussi tout un aspect service aux victimes. Voilà, donc 253 millions de dollars.
Alors justement, par rapport à cette demande, est-ce qu'il n'y a pas une lassitude des donateurs? On sait qu'Haïti, par le passé, a bénéficié de pas mal d'aides. Vous parliez des tremblements de terre, celui de 2018, mais il y a eu bien sûr celui de 2010. Il y a eu des ouragans, il y a eu toutes sortes de cataclysmes sur ce pays. Est-ce qu'aujourd'hui, les donateurs, notamment les Américains, les Européens et d'autres puissances, sont prêts à jouer le jeu et à verser donc 253 millions de dollars?
Donc on sait qu'il y a énormément de compétition sur les ressources humanitaires dans le monde. Cette année, c'est un niveau jamais atteint avec 29 milliards de dollars au total comme demande pour toutes les crises du monde. Haïti n'est pas forcément sous le radar, puisqu'il y a des crises qui sont beaucoup plus visibles, Moyen-Orient, pays du Sahel, etc., Myanmar, etc. Notre rôle comme Nations Unies, c'est d'y croire et de faire tout ce qui est en notre pouvoir, main dans la main avec le gouvernement haïtien, pour mobiliser la communauté internationale pour qu'elle apporte son appui. Qu'elles se rendent compte qu'au milieu des Caraïbes, donc il y a une situation si dégradée. Bien sûr, l'humanitaire, ça ne peut pas être la solution aux problèmes chroniques d'Haïti. Donc il faut vraiment une aide ponctuelle, parce que la situation est vraiment mauvaise cette année. Il faut une aide continue sur le long terme, avec, encore une fois, sous le leadership haïtien, pour entamer des réformes de structure. Et donc c'est la question du nexus humanitaire-développement. Pour faire en sorte que nous éteignions, il faut éteindre l'incendie quand il y a un incendie, mais il faut surtout travailler à ce que l'incendie ne se déclare pas. Donc il y a des domaines où je pense qu'il y a énormément à faire sous le leadership haïtien, avec les Nations Unies et les bailleurs de fonds qui s'intéressent à Haïti, pour apporter des solutions structurelles à des problèmes structurels et des solutions structurantes. Par exemple, mettre en place un système de protection sociale, toute la question de l'adaptation au changement climatique et la gestion des risques et des désastres, toute la question de transformation des produits agricoles et fonctionnement du marché agricole pour améliorer les conditions d'existence des populations et arriver à bout de ces crises récurrentes en Haïti.
Alors vous parliez justement de travailler main dans la main avec le gouvernement et les autorités. Or, cette fameuse réunion du 20 février dernier, la représentante spéciale, donc Hélène Lalim, a parlé d'une impasse politique et de l'absence donc de Premier ministre et de gouvernement. Est-ce que justement cette situation aggrave la situation humanitaire et comment peut-on vraiment compter sur ces autorités?
Donc un nouveau Premier ministre est en train d'être installé en Haïti avec un nouveau gouvernement. Les réformes institutionnelles, les réformes de gouvernance, les réformes structurelles qu'Haïti doit entreprendre, bien sûr, a besoin d'un large consensus et d'institutions qui sont en pleine possession de leurs moyens, etc. Donc il y a des discussions pour faire avancer. Les discussions sont en cours, mais c'est sûr qu'il faut un large consensus national pour faire avancer le pays sur le chemin des réformes. Et sans ces réformes-là, et certaines ont été discutées depuis très très longtemps en Haïti, c'est indispensable qu'elles soient mises en œuvre, qu'elles soient mises en place, que ce soit au niveau de la réforme de la justice, au niveau des réformes économiques pour rendre l'économie plus compétitive, au niveau de certaines réformes institutionnelles, au niveau de la réforme constitutionnelle. Il y a énormément de réformes à faire avancer sur la base d'un large consensus pour qu'Haïti puisse redémarrer et atteindre ses objectifs dans le cadre des objectifs du développement durable. Pour l'instant, Haïti est en retard par rapport à la mise en œuvre de ses objectifs.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info. Retrouvez sur notre page internet et nos comptes Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.